BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine dans la présentation d'une association locale. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'association Le Montois en Transition avec Mathilde Jolivet-Martin, coprésidente et trésorière, et Sarah Gaillard, adhérente active de l'association. Mesdames, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Oui, alors Le Montois en Transition, c'est effectivement une association locale qui déploie ses activités dans Le Montois. Et qui a pour but de favoriser une dynamique locale pour faire face, voire même anticiper les conséquences du pic pétrolier, du changement climatique et la raréfaction des ressources. Donc on s'inscrit dans le mouvement des villes et territoires en transition. On n'a pas d'appartenance politique et notre but c'est de promouvoir toutes les actions sur ces thèmes-là, accompagner les projets de résilience locale et de mettre en dynamique les différents acteurs du territoire. Alors, l'association a été créée en 2015. Je ne sais pas très précisément ce qu'avaient en tête les personnes qui l'ont créée, mais en tout cas, on peut se référer à la charte qui a été à cette époque-là rédigée et qui revient sur cette notion de prise de conscience des raréfactions des énergies fossiles, de la problématique du réchauffement climatique et comment on fait nous sur nos territoires à notre niveau pour l'anticiper, pour se mettre en mouvement et peut-être aussi créer des solidarités locales et des projets pour sensibiliser la population et favoriser des initiatives citoyennes aussi sur ces thématiques-là.
Qu'est-ce que ça veut dire en transition ?
Alors c'est quelque chose de très vaste et c'est un processus très long surtout. Pour moi la transition c'est que le point de départ on va se rendre compte que notre mode de vie, notre société, elle avance grâce aux énergies fossiles en grande partie. Et le problème c'est que nos activités ont un impact sur le climat, sur les écosystèmes, sur la biodiversité. Et donc si on continue comme ça, on se rend compte qu'on va détruire notre planète et qu'en détruisant nos écosystèmes, on aura du mal à y survivre sur cette planète. Donc une fois qu'on a fait ce constat, si on veut pouvoir continuer à vivre sur cette planète, on est obligé finalement d'adapter nos actions, de modifier nos activités. Et c'est en cela qu'on rentre en transition. Et petit à petit, on va adapter notre mode de vie par rapport au constat qu'on a fait des impacts négatifs de nos activités, nos gestes du quotidien. Et donc petit à petit, on va faire un premier pas, on va changer une habitude, on va commencer peut-être par éteindre les lumières, ce qu'on ne faisait peut-être pas forcément avant. Et puis petit à petit, on va commencer à trier ses déchets, à composter, à utiliser un peu moins sa voiture. Et chaque petit pas va permettre d'aller vers un mode de vie qui sera plus adapté à ce contexte de changement climatique et de raréfaction des ressources. Enfin, voilà, tous les enjeux actuels, on va pouvoir essayer d'y faire face en se mettant en chemin vers cette transition de société.
Oui, je complète ce que tu dis, Sarah, c'est que dans le mot transition, il y a la notion de transit, donc de déplacement. Et c'est aussi dans la tête que ça se passe, peut-être même avant les actes, donc c'est la notion de changement. Mais il y a aussi quelque chose de très doux dans la transition. C'est pas la transformation. On se met en chemin, donc nous, en tant qu'association, on va sensibiliser, mais on va accompagner aussi cette prise de conscience et ce changement. Donc c'est comment on se met en chemin déjà avant tout, et une fois qu'on s'est lancé sur ce chemin, on avance, Alors c'est sûr qu'on parle de l'urgence tout le temps climatique, et tant mieux qu'on en parle, mais notre objectif c'est pas ni de faire peur, ni de culpabiliser, donc ça c'est très important, et on prend les gens là où ils en sont, et on les accompagne jusqu'où ils peuvent, où ils ont envie d'aller.
Justement pour ça vous faites de nombreuses actions ?
Alors des actions de sensibilisation, donc ça peut être à l'occasion de journées de l'environnement, donc on est sollicité par certaines villes pour tenir des stands, comme à Mézières-sur-Seine par exemple, lors de la journée de l'environnement. Et là, on accueille en fait les personnes, on discute avec elles, on échange. Il y a souvent un prétexte, alors on avait fait un atelier autour de la rentrée des classes zéro déchet, donc ce qu'on peut utiliser plutôt que les feutres ardoises ou de tableaux blancs jetables, du coup, qu'est-ce qu'on peut utiliser à la place. Donc on montrait des exemples et ça ouvre la discussion. Donc c'est vraiment des moments d'échange et de sensibilisation. On peut peut-être parler du World Cleanup Day, qui est une action internationale et qui est déployée notamment en France, Et sur le Mantois, chaque année, on organise ce grand ramassage collectif des déchets. Donc cette année, ça a eu lieu à Rosny-sur-Seine et les années précédentes à Porcheville. Et on était notamment secondé par l'association Un Mantois Plus Propre. Et donc, il s'agissait de nettoyer les berges de Seine avec les citoyens, les élus qui ont mis la main à la pâte aussi. Il y a eu une initiative de membres de l'association qui était de créer un Ripper Café. Et ensuite, ces personnes ont créé leur propre association, donc le Ripper Café Mantes. Et c'est aussi un des rôles du Mantois en transition, d'accompagner des embryons de projets et de donner la possibilité ensuite aux personnes de prendre ce temps de créer leurs propres associations. Donc on reste bien sûr association amis et partenaires. Et donc cette association du Ripper Café Mantes organise des Ripper Cafés. Donc il s'agit de venir avec nos objets qui ne fonctionnent plus pour voir auprès des bénévoles s'il est possible de les réparer, de leur donner une seconde vie plutôt que de les jeter et de racheter. Parfois, on est sur des actions un peu plus où on a déjà un public quelque part acquis à la cause. Je pense à la journée avec les biocopains, la biocop des Paunes. Donc là, le public qui vient est déjà fortement sensibilisé, donc on peut aller un peu plus loin, échanger plus sur des actions plus impactantes. On intervient dans les établissements scolaires aussi. Donc il y a pu y avoir par exemple carrément un diagnostic de fait sur le gaspillage alimentaire. Donc ça c'était avec la ville de Porcheville où des personnes de l'association sont allées observer un petit peu ce qui se passait et s'en est suivi ensuite des ateliers de sensibilisation aussi bien auprès des élèves que des personnels.
Dans ces cas-là, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous pouvez dire à des élèves pour limiter un peu tout ce gaspillage alimentaire dont on entend tant parler et qu'on constate au quotidien?
Alors, parmi les actions qui fonctionnent assez bien avec les élèves, c'est par exemple au niveau du gaspillage du pain, de collecter le pain pendant une semaine et de leur montrer ensuite la quantité de pain qui est jetée parce qu'elle est gâchée. Et ça peut les marquer parce que c'est visuel et puis voilà, c'est leur impact à eux. Donc ça permet d'engager une réflexion et de les inciter à faire plus attention. Donc il y a des pesées qui peuvent être affichées aussi dans les établissements.
Oui, on suit le dispositif éco-école aussi. Donc on a une de nos adhérentes actives, Stella Levistre, ancienne coprésidente d'ailleurs de l'asso, qui accompagne certaines écoles vers la labellisation éco-école. Donc là, c'est toute une réflexion globale sur le fonctionnement, sur le recyclage du papier. Donc certaines écoles ont mis en place un compost, des jardins, enfin, etc. Donc là, je suis pas experte de ce projet-là, mais en tout cas, ça fait partie des projets que l'association porte. Sur les autres types d'actions,
on sensibilise tout ce qui est lié au changement climatique.
Oui.
Donc c'est une part à la fois de sensibilisation et d'éducation, notamment avec deux outils. Donc un des premiers outils, on va dire, c'est la fresque du climat. Donc c'est un atelier qui dure 3 heures et qui permet, autour d'un jeu de cartes et en groupe, de comprendre comment les activités humaines impactent le climat. Comment ça fonctionne finalement ce dérèglement climatique et quels sont les impacts sur les humains, sur les écosystèmes. Donc ça permet d'avoir une bonne compréhension du problème. Et ensuite, on propose un autre atelier qui est assez complémentaire qui s'appelle Inventons nos vies bas carbone. Et dans cet atelier, on regarde l'empreinte carbone d'un Français, c'est-à-dire au quotidien, moi je vais manger, je vais m'habiller, je vais acheter des biens, me loger. Et quelles sont les émissions carbone liées à chaque action? Et aujourd'hui, on voit qu'un Français, en moyenne, il émet 10 tonnes de CO2 par an. Et si on voulait respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, il faudrait qu'on soit à une empreinte carbone divisée par 5. Donc il y a beaucoup de travail. Et cet atelier permet justement de proposer des solutions parce que c'est très visuel et en fait, on ne contraint personne à dire il faut faire comme ci, comme ça, mais on montre ce qui est possible et chacun après arbitre. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait en collectif, donc il y a beaucoup d'échanges. Et c'est en ça, au niveau du Mantois en transition, c'est très agréable parce qu'on est dans le positif. Les bénévoles qui sont impliqués dans l'association en général sont en transition depuis plusieurs années, voire des dizaines d'années pour certains. Donc ils ont beaucoup d'expérience à partager. Et donc ils partagent leur vécu et c'est du vécu qui est positif. On va partager ce qu'on expérimente et qu'on vit. Donc comme on a choisi de le vivre, on ne le vit pas sous la contrainte. Et je pense que pour les personnes qu'on rencontre, ça peut être inspirant. Et pour ça, c'est intéressant de venir nous rencontrer parce que ça peut dédramatiser la situation et pousser à se mettre en action dans le positif.
Et vous apportez des exemples concrets, je suppose, pour aider les gens. Vous disiez 10 tonnes de CO2 par an, ce qui est tout de même énorme. Il faudrait donc le diviser par 5. Vous apportez concrètement des idées aux gens pour les accompagner ?
Oui, alors par exemple, dans le kit Inventons nos vies bas carbone, on se rend compte que notre alimentation, c'est presque 2 tonnes de CO2 par an. Et en grande partie, c'est dû à la consommation de viande. Donc, une des choses qu'on peut faire pour réduire l'impact de son régime alimentaire, c'est réduire la quantité de viande que l'on consomme. Donc, on ne va pas dire que tout d'un coup, il faut passer de consommer de la viande à être végane. Mais si on réduit un petit peu notre consommation de viande, si on passe à une portion de viande par semaine, on voit qu'on réduit beaucoup notre empreinte carbone liée à l'alimentation. Et pour tous les secteurs de consommation, on peut faire cet exercice de comparer si j'ai un logement qui est bien isolé, de combien je réduis mon empreinte carbone. Donc cet atelier-là permet vraiment d'avoir une petite idée de qu'est-ce qui est efficace ou pas par rapport à mes émissions de CO2.
Puis ce qui est intéressant, je trouve, dans ces ateliers, que ce soit la fresque du climat ou Inventons nos vies bas carbone, c'est que ça permet d'initier aussi le débat, l'échange. Et on n'est jamais dans l'injonction. On ne va pas dire aux gens « faut que tu arrêtes de manger de la viande ». Et c'est vraiment du dialogue. C'est-à-dire, et comment ça serait pour toi? Est-ce que tu pourrais envisager de baisser ta consommation de viande, par exemple, mais aussi d'écran? Et moi, par exemple, je continue à apprendre grâce à l'association. Et quand on a fait l'atelier Vie bas carbone que Sarah avait animé au théâtre de la Nacelle à Aubergenville, moi j'ai pris conscience du numérique et de la pollution finalement invisible. Je consomme de l'écran comme beaucoup de gens. Et en fait, suite à cet atelier, je me suis dit, mais je ne me suis pas rendu compte réellement de l'impact que ça avait dans mon impact carbone. Et donc je me suis dit, bah tiens, je vais essayer quand même de prendre vraiment conscience et de regarder combien je consomme d'écran dans la journée, dans la semaine, et à quel endroit je peux réduire, qu'est-ce qui est vraiment indispensable pour moi, important pour moi en consommation d'écran, ou finalement de quoi je pourrais me passer. Donc ça m'oblige à réfléchir à mes actions du quotidien. Et c'est ça en fait le dialogue qu'on a avec les personnes. C'est pas de leur dire il faut absolument que t'arrêtes de scroller sur Insta, mais c'est plus qu'est-ce qui est vraiment important, moins important, où tu mets ton énergie, pourquoi tu la mets là plutôt qu'ici. Et voilà, et c'est ça la transition en fait, c'est cette avancée, ce chemin-là.
Toujours apprendre.
Oui.
Apprendre, mais pour autant, ne pas toujours être parfait.
Ah oui, non, mais là, là, faut oublier. Hein. Ouais, évidemment, ne pas... Enfin, de toute façon, la perfection, je sais pas trop ce que ça serait précisément, mais c'est le faire en conscience, en fait. C'est mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Là, c'était les soldes. Je compte, j'ai combien de t-shirts? Est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin de me racheter un t-shirt, même s'il est à moins 60%? Et peut-être que j'en ai besoin. Et si j'en ai besoin, bah, peut-être que... est-ce qu'il y a de l'occasion? Parce que finalement, il y a des gens, ils n'achètent pas la bonne taille, ou que sais-je, et donc on peut trouver des choses en très, très bon état d'occasion. Et en tout cas, si au final, je décide d'acheter ce t-shirt, ce 15e t-shirt en solde, parce que c'est une super affaire, mais je le fais vraiment en conscience, c'est parce que je n'ai pas trouvé d'autre solution et que j'ai vraiment besoin de ce t-shirt. Mais ça crée un tampon entre l'action, le geste que je vais faire sans y réfléchir, et l'acte raisonné, finalement.
Donc on va être sur une consommation différente.
En tout cas, se poser les questions de quel est mon impact, ça pousse à faire des arbitrages. Par exemple, moi, je me pose souvent la question au niveau des déplacements, parce que les déplacements personnels reposent sur la voiture, pour la plupart d'entre nous. Et donc, à chaque fois qu'on prend sa voiture, on émet du CO2. À chaque fois que moi, je sens que j'ai un besoin d'aller quelque part, je me dis, est-ce que je peux pas... profiter de ce déplacement pour faire plusieurs choses à la fois, de manière à ce que quand je prends la voiture, ça vaille vraiment le coup. Et peut-être que cette fois-là, je peux prendre mon vélo, parce que j'ai rien à transporter, parce que c'est pas très loin. Et finalement, ça prend pas beaucoup plus de temps que ça, surtout si on est en ville. En général, le vélo, c'est aussi rapide que la voiture, voire plus, parce qu'en plus, il n'y a pas de problème de parking. Donc voilà, c'est vraiment ce que Mathilde exprime, et réfléchir à... j'ai besoin de quelque chose, comment je le fais? Est-ce que j'ai un autre moyen de le faire que ce qui serait le plus impactant par rapport au climat ou aux autres enjeux? Et en fonction de ça, on fait ses choix. Et effectivement, on n'atteindra pas la perfection, on ne pourra pas être à zéro tonne de CO2, par exemple, parce qu'on vit dans une société qui fonctionne sur les énergies fossiles et qu'on est intégré en fait dans cette société. Notre objectif, ce n'est pas de nous couper de tout. On a envie de pouvoir faire des choses les uns avec les autres. Et on travaille, on a des familles, donc voilà, on a quand même besoin de toute cette technologie, au moins en partie.
Oui, et puis parfois on se fait des nœuds au cerveau, hein, parce qu'on croit avoir trouvé la super solution, et en fait on s'aperçoit après coup que ça n'était pas une si bonne solution que ça. Hein. Voilà, moi je faisais du covoiturage, je me disais mais c'est la solution pour faire les trajets. Et en réalité, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui montre qu'en fait, ça, au lieu de faire baisser le trafic routier, ça l'a au contraire plutôt augmenté. Et pour moi, c'était incompréhensible quand j'ai appris ça. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Mais en fait, si, parce que c'est comme la seconde main. On s'est dit, ça va permettre peut-être d'acheter moins souvent, mais mieux, de meilleure qualité, fabriqué en Europe, etc. Mais en fait, on s'aperçoit que certaines personnes du moins, vont acheter encore plus de choses puisqu'elles vont se dire je pourrais le revendre derrière sur les plateformes de seconde main. Donc, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il faut réfléchir aussi aux fausses bonnes idées, aux fausses bonnes solutions et mettre de la conscience partout en fait, en se disant mais finalement, si je fais du seconde main par exemple ou si j'achète une voiture électrique, est-ce que c'est mûrement réfléchi et voilà, quel serait... l'effet secondaire non prévu, indésirable, qui pourrait survenir.
Aujourd'hui, quelqu'un qui aurait envie justement de changer, qui se rendrait compte que son quotidien est peut-être trop lourd, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour démarrer ?
Alors, le truc qui est pas mal à faire, on l'a fait à une époque, mais ça fait un moment qu'on ne l'a pas proposé, c'est l'autopsie de poubelle. tout simplement, alors c'est pas très ragoûtant, mais on met des gants et voilà, tout se passe très bien. À la fin de la semaine, on ouvre ses poubelles et on observe qu'est-ce qu'il y a dans ma poubelle en fait. Là, on va s'apercevoir déjà qu'il y a énormément de plastique et on va se demander comment je pourrais faire autrement et comment ça pourrait s'inscrire dans mon quotidien sans que ce soit trop pénible. Et en fait, on va commencer par le plus simple, ce qui va être le plus accessible en termes de praticité pour mon quotidien, mais aussi budgétaire, hein, parce que voilà, les gens souvent peuvent dire oui, mais les trucs écolos ça coûte plus cher, donc voilà, comment au lieu de manger de la viande 4 fois par semaine, je vais peut-être manger qu'une fois, mais je vais l'acheter chez un producteur que je connais, avec lequel je vais nouer des liens, et je saurai comment la viande est élevée, etc. Bon, c'est un exemple, hein, mais donc commencer par l'autopsie de poubelle, c'est pas mal. Venir vivre des ateliers, d'ailleurs, il va y avoir une fresque du climat dans pas trop longtemps, je crois.
Le 3 février. Biocop des Paunes. Le vendredi 3 février, j'anime une fresque du climat. Donc, c'est l'occasion de vérifier si on a compris les questions liées au changement climatique. Mmh. Et surtout, d'échanger en groupe. Et ouais. Ça peut donner une impulsion si on se sent un peu seul dans ces petits gestes du quotidien, justement. Qui souvent amène à se questionner, mais pourquoi je fais tout ça, moi, les autres, est-ce qu'ils le font aussi, est-ce que ça a vraiment un impact, ce que je fais? Et quand on fait la fresque du climat, on se rend compte qu'on a tous un rôle à jouer. Donc ça peut être un élément qui met en marche. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a vraiment poussée à agir au quotidien et à comprendre pourquoi je le faisais et le faire de manière... sortir justement de cette contrainte un peu lourde de « Ah oui, c'est compliqué le changement climatique, on va se le prendre dans la figure. » Et maintenant, je l'ai acquis, je l'ai digéré. Et en fait, le fait de passer dans la transition positive, c'est ça aussi, c'est avoir digéré tout ça et calmer finalement cette anxiété. Et moi, ce que je conseillerais aussi beaucoup, c'est justement d'aller vers les autres pour... échanger, pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vouloir agir. Ça aide beaucoup. Qu'on soit dans un moment où on a un petit coup de blues, on retrouve d'autres personnes qui sont aussi là-dedans et ça remotive, ça pousse à persévérer. Et participer à des événements, c'est aussi quelque chose qui fait du bien et où on se sent utile. Donc j'en profite pour parler d'un projet qu'on mène avec l'association qui s'appelle le Verger des enfants. Donc c'est un verger pédagogique qui est en cours de création à Sailly, dans le Vexin, pas très loin de Mantes. Et l'idée, c'est de créer un verger où on va pouvoir accueillir des classes des villages alentours et puis du Mantois pour des journées ou pour quelques heures. On va leur proposer des jeux liés à la nature, de découverte d'un verger, d'observation de la flore, de la faune qu'on peut y voir. Et puis à côté de ça, on propose aussi des activités plutôt ludiques et sportives sur le terrain. Donc c'est à la fois de l'éducation à l'environnement et puis du jeu. Donc les enfants aiment beaucoup. On a commencé avec quelques événements cette année, notamment un petit moment du Vexin qu'on a organisé en lien avec le parc naturel régional du Vexin. Et on a proposé un chantier participatif à la fois pour les adultes et les enfants. Donc on construit le verger avec ceux qui viennent sur ces événements et on leur propose des jeux. Donc des événements comme ça, ça permet vraiment de contribuer à planter des arbres, à planter des graines aussi dans le cerveau des enfants et des adultes. Donc c'est quelque chose de très, très enthousiasmant. Et on est soutenu par la région Île-de-France parce qu'on vient de recevoir une subvention dans le cadre du budget participatif d'Île-de-France.
Ce qui veut dire que les citoyens ont voté pour ce projet et l'ont donc plébiscité. Mm.
Si on se projette un peu dans le futur, qu'est-ce que vous imaginez pour les années à venir ?
Pour l'association, vous voulez dire, ou pour le monde entier ? On a pas mal de projets. Ben, déjà, c'est vrai que le verger... on aimerait bien qu'il se développe et que les classes puissent y venir et continuer à faire cette éducation à l'environnement. On aimerait également refaire des week-ends résilience. Donc ça, c'est des projets qui avaient été menés. En fait, dans l'association, on a plusieurs groupes de travail. C'est vrai qu'on ne l'a pas forcément expliqué jusqu'à présent. Il y a plusieurs groupes de travail et notamment un groupe autour de la résilience alimentaire. Enfin, la résilience en général, mais alimentaire plus précisément. Et donc, ce groupe a tenté l'expérience d'aller vivre plusieurs week-ends sans électricité. Alors, l'objectif, c'était pas de prouver qu'on était des warriors, super-héros, survivalistes. C'était pas du tout ça. C'était juste vraiment de le vivre, de l'expérimenter pour se rendre compte de qu'est-ce qui est chouette, parce qu'il y a eu des trucs chouettes, mais qu'est-ce qui est difficile. Et oui, on est vraiment dépendant des énergies fossiles et de l'électricité. Et qu'est-ce que ça change en nous quand on n'a plus accès à cela ? Et c'est vrai que les personnes qui ont participé ont pu témoigner aussi du changement de temporalité. Parce que forcément, tout est plus lent. Faire cuire une tarte avec un four solaire, ça prend 3 heures et pas 30 minutes au four. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de ce temps ? Quel est notre rapport au temps ? Enfin, c'est vrai que les personnes qui ont participé ont été assez marquées par ça, par le lien aussi des uns aux autres, qui prenaient plus le temps de se parler, de faire des choses ensemble. Alors c'était très court, c'est très court un week-end. Mais l'expérience a été menée une fois en printemps-été et une autre fois en hiver, donc ça aussi changeait un petit peu la donne forcément. Et on aimerait réitérer cette expérience-là, peut-être en l'ouvrant davantage, puisque là c'était vraiment des adhérents... vraiment actifs de l'association qui avait participé, donc pourquoi pas l'ouvrir un petit peu plus, pourquoi pas le proposer à des gens qui sont pas spécialement sensibilisés à tout ça et qui auraient envie de faire cette expérience là. On avait aussi d'autres projets de développement, nous rapprocher aussi des élus des villes du Mantois. Donc ça, déjà il y a déjà plusieurs rendez-vous, on avait eu des rendez-vous avec divers élus du Mantois. Bon, nous on n'est pas une tribune d'expression de politique, pas du tout, mais c'est simplement les sensibiliser et puis nous aussi comprendre quelles sont eux leurs réalités en tant qu'acteurs des villes, leurs élans, leurs envies, leurs contraintes, et comment on peut faciliter aussi l'action des citoyens qui ont eux envie de s'engager, de faire avancer les choses sur leur territoire.
Merci beaucoup.
Merci.